Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu.
Pas facile d'avertir les pécheurs. Spontanément, on se dit que c'est pas tellement notre truc. La correction fraternelle. C'est classé dans les œuvres de miséricorde pourtant. Vous savez, visiter les malades, donner à boire à ceux qui ont soif, aider les mourants. Enfin, il y a 14 œuvres de miséricorde. On y a beaucoup travaillé avec la paroisse, nous autres, cette année. Et parmi les œuvres de miséricorde, il y a avertir les pécheurs. Dans notre monde, dans notre société, dans notre mentalité d'aujourd'hui, ça paraît complètement contradictoire. Et même quand on regarde l'Évangile, Jésus nous a dit des choses qui paraissent complètement contraires. Par exemple, la parabole de la paille et de la poutre. Qu'est-ce que tu as à regarder la poutre qui est dans l'œil de ton voisin, alors que toi tu ne vois pas... Pardon, le contraire. Comment est-ce que tu ne vois pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors que toi-même tu as une poutre dans le tien ? C'est Jésus qui le dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Et là, il dit, mais si ton frère a péché contre toi, vas-y, dis-lui, et si ça ne suffit pas, prends quelqu'un d'autre avec toi, et même toute l'Église. Et puis, spontanément, dans notre mentalité d'aujourd'hui, chacun est à ses affaires, mêle-toi de ce qui te regarde, et puis regarde devant toi. Et pourtant, on ne peut pas contourner l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus est clair, il faut avertir le pécheur. Pourquoi ? Parce que le pécheur est en danger. Le péché nous met en danger, parce que, même en danger de mort éventuellement, mort spirituelle. Le péché nous coupe de Dieu, le péché nous sépare de Dieu, le péché nous empêche d'aller à Dieu. Et donc si ton frère est dans le péché, il est lui-même en danger par rapport à Dieu. Et si tu ne l'avertis pas, toi-même tu en es responsable. Nous sommes responsables les uns des autres. Dans ma vie de prêtre, c'était au tout début quand j'étais jeune prêtre, il y a un événement qui m'avait beaucoup frappé, beaucoup bousculé. Un garçon qui était en train de mourir du sida, c'était un moment où on mourait encore beaucoup du sida. Et ce garçon était complètement fermé depuis 4 mois qu'il était à l'hôpital. On m'avait appelé près de lui, je ne le connaissais pas. Et le premier jour où j'ai été le voir, il dormait, je n'ai pas obtenu grand-chose. Le deuxième jour, j'ai eu sa maman dans le couloir qui m'a parlé un peu de lui. Du coup, je savais un peu qui il était. Et je suis entré dans la chambre et je lui ai dit « Philippe, je sais maintenant que tu es suffisamment intelligent pour comprendre que tu vas mourir. » Oui. Et que tu vas mourir bientôt. Oui. Alors tu vois, je ne suis pas représentant de commerce, je n'ai rien à te vendre, mais je suis là pour t'aider à mourir comme un homme. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Mourir comme un homme, c'est mourir avec un cœur ouvert pour voir Dieu, un cœur ouvert pour rencontrer Dieu, un cœur ouvert pour être libre. Et qu'est-ce que je dois faire ? ben, tu ouvres ton cœur et puis tu dis, je suis là pour ça, des choses que tu n'as sans doute jamais pu dire à personne et que tu vas pouvoir dire à un prêtre pour que le prêtre, au nom du Seigneur, pardonne tes péchés. Et maintenant, je lui dis, demain je pars avec des jeunes pour des camps. C'est vrai, je partais pour des camps de ski. Et puis, quand je vais rentrer dans 15 jours, tu seras peut-être mort. Et tu as fait attendre le bon Dieu si longtemps, tu vas le faire attendre 8 jours de plus, 15 jours de plus. Et là, ça a été comme un espèce de bouchon de champagne qui sautait. Il n'a rien dit, absolument rien dit. Et moi, je n'ai posé aucune question. Il n'y a pas eu un mot. Et je lui dis, Philippe, je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a eu un grand silence. Et je lui ai demandé s'il voulait communier. Tu veux communier maintenant que tu t'es confessé? Oui, je veux bien. Et tu veux que j'appelle ta maman pour communier avec toi? Oui, je veux bien. Alors je suis allé chercher la maman qui est tombée dans les pommes parce que son fils s'était confessé. Et puis je lui ai dit, vous voulez communier avec lui? Elle me dit, oui, je veux bien. Et je... peut-être que comme lui, vous voulez vous confesser avant. Je suis un peu culotté, hein, mais... Alors elle baisse le nez, alors je lui dis, je crois comprendre que vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Alors elle baisse le nez encore un peu plus profond, je lui dis, allez, venez, on s'est mis dans un coin du couloir, allez, je vous pardonne vos péchés. Et puis on est entré, on a communié, et au bout d'un grand silence, Philippe me dit, mon père, vous allez voir des jeunes ces temps-ci? Alors je lui dis, c'est pas ces temps-ci, c'est toute ma vie. Ah mon père, je vous demande, s'il vous plaît, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité, tout le monde nous a fait croire. Vous avez laissé croire qu'on pouvait faire notre bonheur n'importe comment, et c'est faux. Et j'en serais pas là où j'en suis ici. Quelqu'un me l'avait dit plus tôt. Mon père, je vous en supplie, dites-leur la vérité. Je suis rentré du camp, il était encore vivant. Et tous les soirs, je suis allé le visiter, c'était au début du carême. Tous les soirs, je venais près de lui. Tous les soirs, il y avait une petite bulle qui est montée. Mon père, j'ai encore ça, j'ai pensé à ça aujourd'hui, que je n'avais pas encore dit. Et je voudrais demander pardon pour ça. Tous les soirs, je lui redonnais le pardon du Seigneur. Je n'ai jamais posé une seule question. Tout remontait jour après jour. Et il est mort le jour des rameaux comme un saint, parce que tout était remonté. Il n'y avait plus rien dans son cœur que de la lumière. Il est mort comme un saint. Et le jour de son enterrement, j'ai dit à tout un groupe d'amis là, qui étaient là, je leur ai dit, Philippe a demandé de vous le dire, alors je vous le dis. Il m'a fait promettre de vous le dire. Il existe un bien qui conduit à la vie, il existe un mal qui conduit à la mort. À chacun d'entre nous de choisir. Aujourd'hui, on est terriblement individualiste. Chacun fait ce qu'il veut. Après tout, c'est son affaire. C'est pas mon problème. Si, c'est mon problème. C'est mon problème parce que il y a des gens, je le redis, qui sont en danger. La mort physique n'est rien. La mort du cœur, la mort spirituelle est terrible. Aujourd'hui, il y a une distinction qu'on ne fait pas assez, qui nous aiderait pourtant beaucoup. On ne distingue pas l'acte de la personne. Il faut absolument séparer l'acte de la personne. Il y a des gens qui sont bons parce que ce sont des enfants de Dieu, qui font des choses mauvaises. La chose est mauvaise, mais ce n'est pas pour ça que la personne est mauvaise. Mais il faut que la personne comprenne que ce qu'il fait est mauvais. Et puis, il faut énormément d'humilité pour reprendre son frère. Parce que nous sommes pécheurs comme lui, et peut-être que nous avons fait des choses pires que lui, pires qu'elle. S'ils ne t'écoutent pas, dit Jésus, traite-les comme des païens, traite-le comme un païen. Quand on y réfléchit, spontanément on se dit, comme un païen, il ne fait plus partie de l'Église. Quand on y réfléchit, regardez comment Jésus traite les païens, avec tellement d'amour, avec tellement de soin, avec tellement de délicatesse. Regardez comme Jésus traite les publicains, au grand scandale des pharisiens d'ailleurs. Jésus a un amour préférentiel pour les pauvres, pour les pécheurs. Et il traite les publicains avec énormément de délicatesse, avec un amour formidable, une miséricorde extraordinaire. Regardons Jésus deux minutes pour voir comment il fait. La Samaritaine, c'est une femme qui a plusieurs maris, enfin successivement, on peut l'imaginer, mais enfin, c'est pas sûr. Jésus aurait pu lui dire, ben, tu sais, ta vie, c'est pas terrible, je suis là, je peux t'aider, tu sais, je peux... Pas du tout comme ça qu'il s'y prend. « Femme, donne-moi à boire. Et tu me parles à moi qui suis une Samaritaine alors que toi tu es juif ?» Je croyais que les Juifs n'avaient rien à voir avec les Samaritains. Jésus provoque la conversation, mais pas du tout sur le ton du reproche. Jamais de reproche, pas le moindre reproche. Puis tout d'un coup, allez, va chercher ton mari. Ah, ben j'en ai pas. Ah ben t'as raison de dire que t'en as pas, parce que t'en as eu 5. Et celui avec qui tu es, c'est toujours pas ton mari. Et puis ça s'enclenche, et vous vous rappelez ce qu'elle va, elle va dire aux gens de son village, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Regardez Jésus avec Zachée. Il ne fait pas de reproche à Zachée. « Dis donc, Zachée, quand même, t'es pas très honnête, t'as dû piquer un peu dans la caisse et tu as... » Non, non, Zachée, descends vite, il faut ce soir que je demeure chez toi. Il s'invite chez lui. Et Zachée est bouleversé, et tellement bouleversé que son cœur craque et que finalement il se retourne complètement. Regardons Jésus avec la femme adultère, qui est condamnée justement par les pharisiens, qui est rejetée, qui est prête à être lapidée. Et Jésus, lui, baisse les yeux pour ne pas la regarder en face. Vous savez, je pense souvent ça. Il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Il regarde avec le regard intérieur. Et puis finalement, quand tout le monde est parti, il lève les yeux. « Femme, personne ne t'a condamnée ?»« Non, Seigneur, personne. » »« Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Regardez comment il s'y prend avec Saint-Pierre. Enfin, tu me dis que tu m'aimes, mais regarde ce que tu as fait il y a 3 jours. Tu m'as dit que tu as dit que tu me jurais tes grands dieux, que tu ne me connaissais pas. Non, la seule question, Pierre, m'aimes-tu ? Jusqu'à ce que Pierre puisse formuler cette réponse. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors, Jésus aime d'un amour infini, d'une miséricorde infinie, d'une délicatesse infinie. Et pourtant, il est quelquefois coupant. Regardez avec les marchands du temple, hein, ça rigole pas, il fait un fouet avec des cordes. Allez, dégagez-moi tout ça. Vous avez fait de la maison de mon père un repère de brigands. Ça rigole pas. Hein. Regardez comment il traite les pharisiens de temps en temps. Malheur à vous, pharisiens hypocrites. Vous êtes blancs dehors, mais vous êtes noirs dedans, plein de péchés, d'hypocrisie. Regardez comment Saint Paul traite les Corinthiens parfois. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Jésus est coupant quelquefois. Il est coupant avec ceux qui peuvent entendre. Alors, la correction fraternelle, finalement, il faut dire, il ne faut pas dire. Il faut faire, il ne faut pas faire. La première chose, et c'est l'épître de saint Paul qui est au cœur de nos 3 lectures, qu'il faudrait reprendre, qu'il faudrait relire, c'est l'amour qui est premier, c'est la charité qui est première. Et même l'amour enveloppe, l'amour synthétise tous les commandements. La loi, c'est l'amour. Tu aimeras, basta. Et quand Jésus va quitter les apôtres, la dernière chose qu'il leur dit, « Aimez-vous !» Il ne dit même pas « Aimez-moi !» Il dit « Aimez-vous !» Seule chose qui compte. Je vous donne un commandement, le seul, mon commandement, le voici, « Aimez-vous comme je vous ai aimé !» Alors, est-ce que je suis prêt à faire une correction fraternelle, corriger mon frère ? Est-ce que c'est par amour, vraiment, par amour de lui ? Ou est-ce que c'est pour avoir la paix, parce que ça me casse les pieds, parce que ça me renvoie à moi-même? Vous savez, la faiblesse des autres me renvoie souvent à mes propres faiblesses. Et comme je n'ai pas envie de voir mes faiblesses à moi, j'accuse l'autre. Est-ce que c'est finalement par emportement, par agacement que je fais une remarque? Ou est-ce que je suis sûr que ça portera? Je pense que la vraie règle, on ne fait une correction fraternelle que quand on est sûr qu'elle va porter du fruit. Quand on est sûr qu'elle va aboutir à ce qu'on cherche, c'est-à-dire la conversion de celui à qui on parle. Et ça, vous sentez qu'il faut d'abord un cœur parfaitement pur de son côté, parfaitement pur d'amour et de miséricorde, et une humilité formidable, parce que je suis pécheur comme lui. Alors c'est là que Jésus dit quelque chose de formidable. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez de mon Père qui est aux cieux. Est-ce que vous êtes réunis en mon nom ? Voilà la question. Voilà la question. Tournons-nous, si vous voulez, vers la Vierge Marie, qui si souvent est venue dans ses apparitions pour avertir les pécheurs. Elle prêche la conversion, elle prêche la pénitence. Et puis, de temps en temps, elle dit rien, elle pleure. Vous savez, l'apparition de la Salette, elle, comme une dame qui est sur son caillou, elle pleure la tête dans les mains. Les 2 petits bergers s'avancent. « Madame, pourquoi pleurez-vous ? Parce que mon fils a sauvé le monde et que vous n'en faites aucun cas. » Dans mes souvenirs d'enfance, je crois qu'une des corrections que j'ai reçues de ma mère, qui m'a le plus marqué dans toute ma vie, c'est un soir où on faisait les ânes avec les frères et sœurs, Et puis tout d'un coup, ma pauvre mère, fatiguée, parce qu'elle attendait le 8e, je crois, au lieu de nous engueuler, elle craque, elle se met à pleurer. Et moi, j'ai pleuré, et je me suis dit, c'est dégueulasse ce que tu fais. Je crois que c'est la correction la pire que j'ai reçue dans ma vie. Alors je regarde la Sainte Vierge qui pleure de temps en temps, elle n'a pas besoin de dire, j'ai compris. Quand j'ai fait une bêtise, je n'ai pas besoin qu'on m'engueule, je sais très bien que j'ai fait une bêtise. J'ai besoin qu'on m'aime et qu'on m'encourage. Alors quand je regarde Jésus, quand je regarde la Sainte Vierge, j'ai envie de me convertir, j'ai envie de me retourner. Il faut que nous soyons pour les autres comme Jésus est pour nous, comme la Sainte Vierge est pour nous.